France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons celui qui fut chef d'état-major des armées de 2017 à 2021, aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur. Il publie Entre-guerres chez Gallimard. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Général François Lecointre, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Votre livre est un récit autobiographique et ce qui marque d'abord c'est la sobriété, la dignité dans la manière dont vous retracez votre parcours, de votre vocation pour l'armée née dans l'enfance jusqu'à votre retraite, prise quelques mois avant le retour de la guerre en Europe et l'attaque de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. C'est un portrait fascinant, parfois complexe de votre vie militaire. On y lit des descriptions glaçantes de votre expérience d'officier en Somalie, au Rwanda, à Sarajevo, des réflexions également sur la condition humaine, sur l'héroïsme, la fraternité, le courage, la peur, la mort et la cruauté. Avec ce livre, François Lecointre, vous vouliez nous dire, nous faire comprendre ce que c'est d'être soldat au XXIe siècle, un siècle qui a commencé dans une sorte d'euphorie occidentale où l'on pensait que la guerre s'était finie. C'était ça le but ?
Oui, je pense que l'idée, c'était de dire aux Français qui l'ont oublié ce que c'est que cette réalité du combat, parce que le terme guerre est toujours un terme très compliqué et qui peut appeler beaucoup de sémantiques différentes et d'explications et de définitions différentes, alors que ce dont je parle, c'est vraiment la façon dont tous nos soldats, tous ceux que j'ai commandés, tous ceux que j'ai accompagnés, tous nos soldats encore aujourd'hui, sont confrontés à cette réalité qui s'impose à eux, qui s'impose à tous les soldats du monde, et comment, quelle que soit la qualification que l'on peut donner au conflit dans lequel ils sont engagés, comment cette réalité à laquelle ils se confrontent les amène à vivre une forme d'humanité particulièrement dense, et c'est cela que je voulais montrer, parce que cette vie très intense, très humaine, très très fraternelle que vivent nos soldats, je pense qu'elle est de nature aussi à inspirer notre société, et que en réalité, en se passant de la compréhension de ce qui se passe, de ces drames qui se nouent tous les jours, de la façon dont leurs soldats portent leur volonté collective, nos concitoyens se privent de quelque chose qui pour moi, est un ferment de vie commune et de vie fraternelle.
Oui, vous avez des mots durs sur... vous parlez d'indifférence, d'ignorance délibérée de la plupart de nos concitoyens face à l'armée, face à nos soldats. Vous parlez aussi dans le livre de l'apathie, du désarmement moral de nos concitoyens ces 40 dernières années, quand les Européens croyaient, au fond, à la fin de l'histoire, à la fin de la guerre. Vous dites d'ailleurs que les Américains, eux, n'ont pas désarmé, alors que les Européens ont désarmé. Et cette douleur intérieure que vous évoquez là, cette douleur intérieure d'avoir été soldat, d'avoir été un militaire, dans cette indifférence et cette ignorance des Français.
Oui, alors d'abord, c'est une douleur que moi j'ai ressentie comme tous mes soldats, mais que nos familles ressentent aussi. Et ça me paraît très important parce qu'on ne peut pas penser les armées sans penser la communauté des armées. Et la communauté des armées, c'est aussi les épouses, les enfants, qui, lorsque leurs maris sont absents pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, dans des conditions très dures d'existence, en risquant leur vie et en ayant à faire leur métier de soldat, c'est-à-dire à donner la mort si ça leur est ordonné, des familles qui vivent comme si leur mari allait tous les matins au bureau et vivant face à cette indifférence de la société. Donc c'est très frappant, c'est quelque chose que nous ressentons tous et que moi, j'ai ressenti très fortement.
Et comment elle se manifeste, cette indifférence de la société ?
Ah bah, l'exemple que je donne dans le livre, mais c'est très rapidement cité. Ceci étant, j'ai une fille qui a épousé un officier et qui se heurte aujourd'hui exactement à la même difficulté. C'est des amis qui vous appellent pour vous inviter à dîner. Et puis, en fait, quand vous dites, mais mon mari n'est pas là, bon, très bien, bon, on va attendre qu'il revienne pour l'inviter. Voilà, pour vous inviter tous les deux. Donc, en réalité, la simple solitude du conjoint, parce que ça peut être une femme ou un homme, du militaire qui est parti, simplement cette solitude-là est complètement ignorée.
François Lecointre, c'est aussi un livre où l'on découvre une plume, une âme littéraire, un lecteur de Bernanos, Genevoix, Pérez Reverté, Buzzati. Dès le début du livre, vous parlez de votre génération d'officiers entrés dans la carrière militaire au moment où l'on pensait que la guerre était finie, mais ironie de l'histoire, je vous cite 40 ans plus tard, comme le commandant Drogo quittant le fort Bastiani dans le désert des Tartares, je dépose mon uniforme au moment où la guerre revient, au moment où notre pays redécouvre le tragique du monde et s'en effraie. Vous avez eu l'impression de rater, entre guillemets, le retour de la guerre en prenant votre retraite quelques mois avant février 2022 et la guerre lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine.
Non, je n'ai pas du tout le sentiment de rater. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que je pense avoir été une génération succédant à la génération de la guerre froide, et donc une génération qui a été extrêmement engagée dans la réalité du combat. Le paradoxe, c'est qu'au moment, effectivement, où je m'en vais, cet engagement extrême dans la réalité du combat, qui a été complètement ignoré, nos compatriotes en reprennent conscience et mesurent à quel point ce tragique-là donne du sens éventuellement, non seulement à la vie internationale, mais doit donner du sens à nos propres existences. Donc c'est ce paradoxe-là que je veux mettre en avant. Ce qui m'a quand vous dites que je suis littéraire, c'est que, et que je lis beaucoup, mais tous les soldats lisent beaucoup en réalité. Et vous voyez cette ignorance ou cette indifférence aux armées que j'évoquais, en fait elle accompagne une très profonde méconnaissance de ce que sont les soldats.
Et vous dites même que les soldats devraient plus écrire encore, les militaires devraient encore plus écrire.
Vous les tensez, vous leur demandez d'écrire tous les jours.
D'abord, parce que je pense que l'écriture est indispensable pour préciser sa pensée. Donc ça me paraît être très important et que je pense que le métier d'un soldat, c'est de passer en permanence de la réflexion à l'action. C'est une pensée en action. Parce que, et l'action dans ce qu'elle a de plus extrême. Et par ailleurs, c'était souvent les échanges que j'avais avec le président de la République quand j'étais en fonction. Ce qu'apporte le soldat, quel que soit son niveau, et le chef d'état-major des armées, parce que son métier est d'être directement au contact du président de la République, c'est la traduction en termes concrets d'une intention, d'une vision, d'une spéculation politique. Et la façon dont il va être capable de dire aux politiques, attention, voilà ce que ça signifie précisément, parce qu'il l'a vécu et parce que ces intentions qui paraissent assez vagues, en réalité, vont se traduire en mort, en blessé, en personne que nous aurons à tuer. Donc ça, c'est très important. Ensuite, un soldat, quand c'est en opération extérieure, ça a beaucoup de temps à perdre. Parce que la guerre, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'inaction.
D'ennui parfois. Vous racontez notamment, et ça c'est très, très intéressant, votre première guerre, enfin une de vos premières guerres, c'est la guerre d'Irak, la première guerre du Golfe en Irak. Et là, vous parlez, vous dites c'est une guerre d'attente où on a surtout combattu l'ennui. Quand l'offensive terrestre est lancée, vous décrivez la faim, la peur, le sentiment d'abandon et d'inutilité que vivaient les soldats irakiens depuis plusieurs semaines de pilonnage aérien. Ils sortent de leur cache avec des drapeaux blancs, incapables d'assumer ce qui aurait dû constituer une mission sacrée pour eux, la défense de leur patrie. Alors, il y a deux aspects dans ma question. La première, c'est effectivement cette guerre d'ennui, de vous vous ennuyez parce que vous pilonnez, vous faites que ça. Et ensuite, le regard que vous avez sur les soldats irakiens qui sortent le drapeau blanc, est-ce qu'il y a une forme de mépris pour vous? Vous dites qu'ils auraient dû défendre leur pays, c'est pour ça qu'ils sont soldats, et voilà ce qu'ils sortent, les drapeaux blancs, quoi.
Alors, c'est pas précisément ça. D'abord, l'attente, je pense que c'est le cas dans toutes les guerres. Absolument toutes les guerres, y compris aujourd'hui sur le front ukrainien. Et ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est la difficulté qu'on a, étant en préparation à la guerre, en étant en école, en apprenant son métier, à se représenter précisément ce que va être la guerre, parce que la guerre a 1000 formes, 1000 visages. Et que quand on est dans cette réalité, ce concret du combat, ça, c'est en réalité souvent de longues heures d'attente, de longues heures où on subit des bombardements, et quelques secondes, quelques minutes, quelques heures parfois, d'une extrême densité, pour lesquelles il faut avoir été prêt, sous tension, sous pression, jusqu'à ce moment-là. Parce que si à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt et que l'ennui vous a entraîné dans une forme d'apathie, à ce moment-là, vous perdez. Ensuite, moi, ce qui me frappe à ce moment-là chez les Irakiens, et ce qui me fait me poser la question, c'est précisément ce que vous évoquez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un homme est prêt à vouloir celui-ci au-dessus de lui jusqu'à avoir une attitude héroïque et donc aller donner sa vie pour quoi? pour son pays, pour défendre son pays ou pas, etc. Et comment se fait-il que, et c'est vrai que ça me surprenait, que les Irakiens, les soldats irakiens que nous avions face à nous, à ce moment-là, avaient renoncé au combat. Il y a des raisons, la faim, la peur, le sentiment d'avoir été abandonné par leur chef militaire. Mais il y avait sûrement autre chose. Il y avait le fait que le lien entre la cause sacrée qu'ils auraient dû défendre et leur propre vie avait été rompu. Et ça pose forcément des questions sur ce qu'est la profonde légitimité du politique à ce moment-là, en Irak, en espèce.
Mais vous vous interrogez d'ailleurs sur la question de savoir si l'héroïsme ou le patriotisme s'apprennent pour un soldat ou si c'est quelque chose d'une certaine manière d'inné. On y vient, quoi.
Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inné. D'abord, je pense qu'il y a quelque chose de très personnel et de très intime dans ce que peut être la vocation. Et la vocation de soldat, en particulier. Parce que la vocation répond, en fait, à une incertitude que vous avez de vous-même et qui va vous pousser à vous offrir à la difficulté, vous confronter à la difficulté pour vous prouver à vous-même que cette incertitude peut être dépassée. Et je pense donc que le soldat qui est typiquement dans une démarche vocationnelle dans laquelle il va aller se confronter à lui-même, à l'incertitude qu'il a de soi, au doute qu'il a sur lui-même, ce soldat-là va en permanence se poser des questions sur les raisons qui motivent un tel effort sur soi, qui motivent une telle prise de risque. Et en réalité, je vois là un véritable patriotisme, c'est-à-dire le fait de se vouer soi-même à une destinée qui va nous dépasser, nous ici au-dessus de nous-mêmes, et le questionnement constant à sa société, aux politiques, qui justifierait, sur ce qui justifierait un tel effort de dépassement de soi.
François Lecointre, votre carrière, c'est une vocation. Vous avez dit le mot qui s'inscrit dans l'histoire d'une famille de militaires. C'est en regardant votre père, commandant de sous-marin, partir en mission dans son engin noir, long, fort, austère et intimidant. Ça, c'est la manière dont vous le voyez quand vous étiez enfant. C'est donc là que naît cette vocation, renforcé par l'admiration que vous avez aussi pour l'un de vos oncles mort au combat à 23 ans en Algérie. Cet oncle, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? C'était un modèle de courage, d'héroïsme, un héros plus accessible, plus humain que la figure tutélaire de votre père?
Oui, évidemment. Cet oncle, ça revient à ce que je vous disais à l'instant, que je n'ai jamais connu puisqu'il est mort très très jeune. C'était la fragilité, c'était l'humanité, c'était la vision qu'on avait de ce très jeune homme, de son sourire, de la photo de jeune officier prêt à faire un chahut, de ce que nous en disaient nos tantes et notre grand-mère, qui était un être qui n'avait pas encore été corrompu, entre guillemets, par la vie, par la vieillesse, par d'autres choses, et en même temps une très grande fragilité, une très grande humanité qui coexistait avec la fin d'un héros, avec ce que disaient ses camarades de combat, avec ce que disaient ses chefs quand il est mort, et ce rapprochement, cette espèce d'oxymore incarné entre
un héros souriant,
entre le héros et le sourire, entre la faiblesse, l'humanité et ce qu'on imaginait de bravoure et de courage, faisait que j'imaginais qu'il était donc plus accessible pour moi de devenir un héros.
On en vient au Rwanda, où vous avez été envoyé pendant le génocide. Les pages sur le Rwanda sont très très fortes dans votre livre. Sur le Rwanda et sur Sarajevo, sur la Bosnie également, où vous avez été un héros. Vous avez été un héros, notamment au moment de l'épisode
du pont de Verbania.
Du pont de Verbania, vous avez donné l'assaut et pour toute l'armée, vous êtes célébré pour tous les soldats, comme à ce moment-là, vous avez été héroïque. Mais si je commence par le Rwanda, vous avez été envoyé pendant le génocide en 1994. Les pages que vous consacrez à cet épisode tragique dont on commémore les 30 ans sont édifiantes. Vous faites l'expérience de l'horreur et de l'impuissance face à l'horreur. Vous écrivez « Nous nous sentions impuissants, ne sachant pas s'il restait des victimes à sauver, nous heurtant à cet accueil impassiblement souriant, à la beauté des collines bleutées dans la brume du matin, au bel ordonnancement des plantations de thé. Et pourtant la barbarie était là, derrière cette toile qu'il fallait déchirer. On sent que vous faites l'expérience la plus effroyable de votre carrière au Rwanda, que vous rencontrez le mal. » Vraiment. Et vous dites, le Rwanda a marqué beaucoup de mes hommes. J'ai vu des soldats en état de détresse profonde. Je m'en suis voulu de ne pas en avoir tenu compte à temps. Vous racontez combien vos hommes ont été marqués à vie par ce qu'ils ont vu au Rwanda.
Oui. En fait, il y a deux choses dans ce que vous évoquez là. D'abord, le mal que je découvre, le mal absolu, comme vous l'évoquez, c'est évidemment le massacre des Tutsis par les Hutus, mais qui ne sont pas que le fait de miliciens en réalité. C'est cette espèce de catharsis par laquelle une population entière se lance dans des massacres. Ce qui rend très difficile l'identification, qui pourtant est sans doute ce qu'il y a de plus satisfaisant, de pouvoir dire voilà la personne la pire, voilà la personne réellement mauvaise. Qu'on comprend au Rwanda, devant l'horreur de ces charniers, c'est qu'en réalité, cette folie s'est emparée de toute une population. Et la contemplation de cette horreur-là me fait penser qu'éventuellement, nous ne pouvons pas en être exonérés, nous collectivement, nous Européens. Donc, et qu'ensuite,
nous,
ce
Français.
Mal renvoie, nous Français, au mal qui gît au fond de nous et dont je ferai l'expérience plus tard. Ensuite, ce dont je me veux, effectivement, c'est de n'avoir pas mesuré à quel point ce traumatisme pouvait s'ancrer au plus profond du cœur de mes hommes et à quel point, dans la durée, ça allait les faire souffrir.
Et vous racontez toujours sur le Rwanda comment vous vous retenez de tuer un milicien Hutu qui a massacré des centaines de Tutsis. La tentation est là, surtout après avoir découvert, vous venez de découvrir des fosses d'enfants tués, que des enfants, et vous vous retrouvez avec ce milicien Hutu, il va se faire lyncher. Vous vous dites, est-ce que je le laisse se faire lyncher par la foule? Est-ce qu'on le tue? Et vous écrivez, nous tenions entre nos mains ce mal incarné, enfin désigné. Je ne sais pas comment nous sommes revenus à la raison. Comment on revient à la raison? Comment on ne bascule pas dans l'animalité quand on est face au mal? À Sarajevo aussi, vous ferez l'expérience du risque de basculer dans l'animalité. Vous dites, comment avais-je pu me transformer ainsi en une créature monstrueuse de violence et d'animalité? Aujourd'hui encore, j'en frémis de douleur et de honte. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que vous racontez à la Sorbonne plus tard, dans une conférence avec des Français, vous racontez cette histoire du milicien Hutu que vous trouvez, que vous vous empêchez de tuer, et vous sentez dans l'assistance des gens de la Sorbonne pourquoi vous ne l'avez pas tué, pour cette revanche, ce désir de violence, de revanche des gens autour de vous, et ça vous interroge sur l'âme humaine, sur l'animalité, sur la violence qu'on a en nous.
Oui, c'est-à-dire que ça me fait comprendre à ce moment-là, mais je l'avais compris déjà. D'abord, la question qu'on se pose dans des situations comme celle du Rwanda, c'est qu'est-ce qui fait qu'un soldat outrepasserait son rôle et se ferait justicier. Et de quelle justice? La réalité, c'est qu'on n'a aucune preuve que ce milicien soit réellement un milicien. On n'a aucune certitude que ce soit lui qui ait été un des responsables du massacre du charnier d'enfants qu'on a dû réenterrer la veille. Mais c'est ce que dit la population. C'est donc très difficile à ce moment-là, sous cette pression, face à cette horreur-là, de réellement avoir le bon réflexe, ce que je considère être le bon réflexe, qui est de se dire « je respecte tout ennemi, tout homme, comme un homme de dignité égale à la mienne, parce que c'est la seule façon de se sauver. Et je dois le faire en particulier vis-à-vis de mes ennemis. » Et je pense d'ailleurs que c'est un des grands dangers des interventions dites d'humanité, c'est que en réalité, on emporte avec nous l'indignation de notre opinion publique, qui n'est pas raisonnable, et qui, elle, a envie de venger, qui, elle, a une compassion terrible, qui la conduit à vouloir que nous, en son nom, nous allions
venger. D'ailleurs, vous parlez de la Somalie où vous êtes intervenu à la fin des années 80, la Somalie qui souffrait de famine, et vous dites on n'aurait pas dû y aller.
C'est-à-dire que je me pose la question de savoir pourquoi on y va, alors qu'on est, au moment où on y est engagé, nous, présents à Djibouti, en pleine guerre civile, en train de s'interposer dans cette guerre civile, et qu'on observe une population qui souffre.
Vous dites on est des militaires, on n'est pas des humanitaires ou des forces de police, quoi.
Non, je pense que les raisons d'une intervention, si elles ne sont qu'humanitaires, doivent être interrogées. Ça me paraît très clair.
François Lecointre, vous parlez aussi de la peur. Et vous dites que la peur la plus grande, la peur ultime pour les soldats, ce n'est pas la mort, mais c'est la torture.
C'est-à-dire que moi, ce que je trouve extraordinaire, et ce qui m'a toujours le plus bouleversé, c'était ce discours de Malraux au moment où Jean Moulin rentre au Panthéon, voilà. Et que je pense que la pire des peurs, celle dont on a le plus de mal à se défaire, celle qu'on a le plus de mal à surmonter, parce que en réalité vous êtes impuissant face à la torture, mais que vous devez résister, c'est effectivement celle-là. Les autres peurs, elles vous paralysent, elles vous écrasent, mais vous pouvez à un moment avoir un sursaut, et un sursaut et un sursaut qui tient aussi à la nécessité de votre dignité propre. Et donc, vous avez un sursaut parce que vous lisez dans le regard de vos hommes ou de vos camarades que vous devez être capable de surmonter ce moment d'avilissement. Mmh.
Vous le savez, François Lecointre, les budgets militaires ont été sensiblement augmentés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais le spécialiste des questions de défense, Jean-Dominique Mercher, explique que la France ne serait pas prête à une guerre de haute intensité. Il dit que l'armée française, armée bonsaï, c'est son expression, ne pourrait tenir un front que de 80 kilomètres, c'est-à-dire la distance qui sépare Dunkerque de Lille. Les Échos nous disent ce matin, par ailleurs, que la France manque de drones. La France est-elle prête ou non, selon vous, à une guerre de haute intensité?
Bon, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça, parce que je ne suis plus chef d'état-major des armées.
C'était il n'y a pas si longtemps.
Oui. Il y a trois ans, et vous suivez toujours les affaires des armées. Là, vous...
je préfère laisser au chef d'état-major des armées les commentaires sur ça. Non, très simplement, oui, on est une armée qui a été réduite à l'extrême. D'ailleurs, cette entre-guerre a conduit, effectivement, à un désarmement. Ce qu'ont fait les armées pendant cette période d'entre-guerre, c'est d'essayer de préserver un modèle qui autoriserait la remontée en puissance, parce que nous n'allions pas perdre de compétences particulières. Mais chacune de ces compétences est aujourd'hui réduite à l'extrême dans une armée qui, effectivement, est une armée petite. Maintenant, quand Jean-Dominique Mercher dit « nous ne serions pas capables de tenir une guerre de haute intensité », j'en reviens à ce que nous disions au début. Qu'est-ce qu'une guerre de haute intensité? Je n'en sais rien. Il y a 36 définitions. Ce qui est vrai, c'est que nous ne serions pas aujourd'hui en situation d'un engagement de masse dans la durée, autrement qu'en coalition ou avec une alliance.
Oui, parce que la question se pose, d'autant plus si Donald Trump arrive au pouvoir, il a clairement dit que les États-Unis ne seront pas nécessairement aux côtés d'un pays de l'OTAN attaqué. Ça veut dire qu'on serait seul? On a les moyens d'être seul?
On est toujours membre de l'OTAN quand même. Donc même si Trump, le président Trump dit que les États-Unis n'interviendront pas, il y a des obligations qui sont faites aujourd'hui aux Américains, parce qu'ils sont membres d'une alliance et qu'il y a des contraintes en droit qui les lient à leurs alliés. Donc je pense pas que le problème se poserait immédiatement. Mais il va se poser à terme, évidemment. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut que les Européens soient capables d'assumer une forme d'autonomie qui rétablira des liens qui ne soient plus de vassalité au sein d'une alliance entre les Européens et les États-Unis.
Rémi, sur l'appli de France Inter, est-ce qu'on paie toujours la disparition du service militaire obligatoire?
Honnêtement, ce service militaire obligatoire n'était plus tenable. D'abord parce que on ne concernait que les hommes et qu'aujourd'hui on peut pas imaginer une obligation d'une telle nature qui ne concernerait que les hommes, et le recréer en y incorporant une classe d'âge de 700 ou 800 000 jeunes gens, c'est aujourd'hui, me semble-t-il, dans l'immédiat, en dehors de nos moyens. Voilà. Maintenant, si on décide qu'on le fait, il va falloir faire d'autres choix.
François Lecointre, Léa demande souvent à ses invités en fin d'interview, liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi? Après avoir lu votre livre avec Léa, on a une petite idée, on se dit que ce serait fraternité?
Oui, c'est fraternité évidemment, mais je reviens sur ce que vous disiez, Madame Salamé, j'ai pas été un héros, on est collectivement héros, voilà. Et on vit collectivement la nécessité de surmonter la peur. On vit collectivement la capacité à maîtriser son animalité. Et ensuite, d'ailleurs, on vit collectivement ce sentiment très puissant qui est de la dépendance que nous avons les uns des autres. Et je pense que c'est ce qu'il y a de
D'où la fraternité.
D'où la fraternité.
Merci. Absolument.
Merci infiniment, François Lecointre. Entre-guerres, votre livre est publié chez Gallimard. Merci encore d'avoir été à notre micro ce matin.